Muriel Darmon est sociologue au CNRS. Elle a mené une longue enquête en immersion dans un service de neurologie et dans des centres de réadaptation pour appréhender différemment la prise en soin de l'accident vasculaire cérébral. Les inégalités sociales de santé, en particulier de classe et de genre, sont au cœur de sa réflexion. Muriel Darmon étudie la manière dont les facteurs non médicaux impactent la rééducation post-AVC et les trajectoires de soins. Elle s'attache à montrer comment le social conditionne l'atteinte biologique, la prise en soin, la récupération. Elle est l'auteure du livre « Réparer les cerveaux, sociologie des pertes et des récupérations post-AVC » paru à la Découverte en 2021, qui retrace son enquête. Dans son livre, elle réfléchit également à l'apport de la sociologie et à l'interdisciplinarité. Bonjour Muriel Darmon. Qu'est-ce qui vous a amené, en tant que sociologue, à traiter d'objets tels que l'anorexie d'abord, puis l'accident vasculaire ensuite?
Bonjour Marianne Dupuis, merci beaucoup pour cette discussion et puis cette question. En fait, c'est vrai que on n'attend pas forcément une sociologue et la discipline sociologique sur ces objets-là, l'anorexie, les AVC, mais c'est effectivement quelque chose qui moi m'intéresse et que j'ai cherché justement à faire, qui est de travailler en sociologue, de regarder en sociologue ces objets qui sont un peu inhabituels pour voir justement ce que je peux apporter comme connaissance nouvelle et puis aussi ce que je peux apporter comme type de regard, en fait, pas seulement donc des contenus de connaissances, mais aussi une manière de regarder ces objets-là qui n'existent pas déjà dans le monde social, qui est le plus évident, la psychiatrie ou la psychologie pour l'anorexie, et puis donc aujourd'hui la neurologie ou les neurosciences pour l'AVC. Donc c'est effectivement ça qui m'intéresse et aussi qui me motive un petit peu. Notre discipline, la sociologie, a été fondée par Durkheim en France, justement par une étude sur le suicide. Donc je ne me prends pas pour Durkheim, mais en tout cas, il y a ce geste d'apporter vraiment une connaissance nouvelle. Sur les différences de récupération post-AVC, il va y avoir des réponses très nombreuses qui vont être données sur le fait que non, tout le monde ne récupère pas de la même manière de son AVC et qu'il y a des raisons médicales ou paramédicales à ces différences de récupération. Et donc moi, en revanche, avec mon regard de sociologue, c'est aller regarder ces récupérations post-AVC, mais en montrant toutes les logiques sociales, en fait, qui expliquent pourquoi on ne récupère pas de la même manière de son AVC, et sans faire intervenir, comme on le fait parfois en médecine, la taille des artères, la précocité de la rééducation ou des facteurs comme ça.
Pouvez-vous nous dire comment vous avez travaillé pour mener cette enquête ?
J'ai mis en fait à contribution, à profit, une méthode dite ethnographique qui consiste en fait à aller voir ce qui se passe dans les services, c'est-à-dire et à observer la vie quotidienne des patients, des équipes, des services, le travail quotidien pour comprendre justement ce qui s'y passe. J'ai commencé dans un service de neurologie, donc là plusieurs mois, 3-4 mois en fait, dans un service de neurologie avec des unités à la fois conventionnelles et puis des unités d'urgence où arrivent en fait les patients juste après les urgences quand ils font ou quand ils ont fait un AVC. Et puis ensuite, j'ai suivi un certain nombre de ces patients de ce service de neurologie aux différents services de rééducation où ils étaient éventuellement orientés après le service de neurologie. Donc j'ai passé 3 mois dans le service de neurologie, comme je l'ai dit, et puis quelque chose comme 9 mois à 1 an en fait dans ces deux services de rééducation, à suivre en fait, comme je l'ai dit, à la fois la vie quotidienne des patients et le travail quotidien des équipes médicales et paramédicales. Donc les services de neurologie sont des services classiques d'un point de vue médical, mais les services de rééducation sont sur un modèle un peu différent. Il y a d'une part des salles et des chambres pour les patients, comme dans tout service médical, mais il y a aussi un plateau technique qui va réunir tous les professionnels de la rééducation, donc kinésithérapeutes, orthophonistes, neuropsychologues, ergothérapeutes, des professionnels en éducation physique adaptée, des professionnels du travail social, donc dans les salles de kinésithérapie, voilà, des barres parallèles pour réapprendre à marcher, en ergothérapie, les fauteuils, les différentes cannes dont les patients peuvent avoir besoin pour se déplacer, voilà, mais également un atelier servant à faire du bricolage, aussi bien de l'électricité que des petits objets objets en bois, par exemple. Et au centre, en fait, de ce plateau technique, une sorte de une maison reconstituée, des pièces, une cuisine avec des plaques, des épices, des pâtes, des casseroles dans lesquelles on doit faire bouillir de l'eau pour suivre des recettes, mais également des tables à repasser, un simulateur de conduite. Bref, une sorte de vie quotidienne artificielle reconstituée pour que les patients puissent à la fois s'entraîner à la reprise de la vie quotidienne, des activités de la vie quotidienne, mais également être évalués dans leur capacité à le faire sans danger pour eux ou les autres. Donc c'est tout cet univers-là, vraiment un univers absolument fascinant par ailleurs quand on ne le connaît pas, c'est tout cet univers-là que j'ai pu observer donc, pendant ces longs mois.
Nous allons revenir au cours de l'entretien à votre approche originale, mais on peut déjà rappeler que l'on dispose de chiffres qui confirment des inégalités dans la récupération post-AVC, des inégalités entre les classes sociales et des inégalités entre les hommes et les femmes.
Oui, en effet, on dispose de chiffres qui attestent de ces inégalités et on dispose en quelque sorte de corrélation. C'est-à-dire, on sait que les classes populaires récupèrent moins bien d'un AVC. On pense savoir, c'est moins certain, mais on pense avoir des raisons de penser que les femmes récupèrent moins bien d'un AVC que les hommes. Donc, on a ces corrélations qui existent, mais de fait, au niveau statistique, on a assez peu de raisons, de causes ou d'explications. Donc, les AVC sont plus fréquents chez les classes populaires. Ça, on sait globalement pourquoi. En fait, c'est parce que dans les classes populaires, dans le bas de l'espace social, on concentre un certain nombre des facteurs de risque de l'AVC. L'hypertension artérielle non traitée, l'obésité, le manque d'activité physique, le tabagisme, etc. Et les femmes vivant plus longtemps que les hommes, elles font aussi plus d'AVC car les AVC interviennent aux âges avancés. Donc, en termes de facteurs de risque et de survenue des AVC, on a à la fois des corrélations et puis une idée des explications. En revanche, on sait que les classes populaires récupèrent moins bien que les classes supérieures d'un même type d'AVC, d'un AVC situé à peu près au même endroit, à gravité à peu près équivalente. Donc ça, c'est calculé et évalué dans les enquêtes statistiques. Donc on a ce fait statistique-là, mais effectivement, dans les textes épidémiologiques ou en santé publique, on a assez peu de raisons qui sont apportées à l'explication de cette différence, sachant que on pourrait penser que c'est juste une histoire d'accès aux soins, c'est-à-dire qu'en gros les classes populaires ont moins accès ou par exemple des classes populaires rurales qui habitent loin des centres médicaux d'intervention d'urgence, etc. Donc on pourrait penser que certains accèdent moins aux soins ou à des soins de moins bonne qualité que d'autres. Donc c'est vrai, mais ce n'est pas la seule chose qui rende compte en fait de ces différences. Et en gros, un même patient en fait ou deux patients, l'un de classe supérieure, l'autre de classe populaires qui arrivent le même jour dans un même service de rééducation, eh bien, vont connaître des trajectoires différentes et des récupérations différentes. Et ces récupérations seront moins bonnes pour le patient de classe populaire. Et donc ça justifie évidemment l'intérêt d'aller voir du coup dans les services ce qui se passe pour essayer de comprendre cette inégalité sociale-là.
Pour illustrer la question des inégalités hommes-femmes, vous évoquez l'exemple du délai d'arrivée aux urgences.
En fait, en ce qui concerne le genre, on sait que il y a quelques enquêtes, études, statistiques qui mettent en avant le fait que les femmes vont récupérer moins bien, là encore, d'un AVC, disons, équivalent que les hommes. Et notamment, une des choses qui intervient, c'est que leur délai d'arriver aux urgences, le délai qui s'écoule entre le début des symptômes et puis le passage de la porte des urgences et la prise en charge pour AVC aux urgences, ce délai est supérieur chez les femmes. Donc ça, c'est une énigme en partie, puisque en revanche, toutes les enquêtes montrent que les femmes connaissent mieux les facteurs de risque de l'AVC, connaissent mieux les symptômes de l'AVC, sont au courant des discours de santé publique sur l'AVC. Et pourtant, les femmes ont un délai qui est, dans certaines études, trois fois supérieur à celui des hommes, un délai d'arrivée aux urgences. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Il y a des explications qui sont déjà données, hein. C'est que, de fait, les femmes vivent plus longtemps que les hommes et donc, en fait, elles vont faire des AVC plus souvent sans témoin, en étant veuve. Or, le fait de faire un AVC sous le regard d'un témoin qui peut appeler les urgences, etc., est quelque chose de très important et permet de réduire le délai d'arrivée aux urgences. Mais L'explication, en fait, de ce délai des femmes d'arriver aux urgences, on peut aussi la dire de manière plus provocatrice en disant, eh bien, en fait, les femmes font d'excellents témoins de l'AVC de leur conjoint et de très mauvais témoins de leur propre AVC. Et inversement, leurs conjoints font de mauvais témoins de l'AVC des femmes. Donc déjà, ils font de mauvais témoins quand ils ne sont plus là, en fait, donc quand les femmes vivent seules aux âges avancés, mais également quand ils sont là parce que, en fait, il y a un rapport à la pathologie et au corps féminin qui se joue dans ce délai et dans ce soin que les femmes ne vont pas prendre d'elles-mêmes et de leurs symptômes. Donc, pour peut-être illustrer ça par un exemple frappant et pour lequel d'ailleurs je vous dois cette référence, Marion Dupuis, mais en fait, si on regarde le témoignage de Margot Turca dans la BD Mon petit AVC, qui est un témoignage de patiente jeune d'AVC, dans un témoignage qu'elle a fait en ligne, elle dit donc voilà, elle a commencé à se sentir pas bien et à ce moment-là, ce qu'elle a fait, ça a été de prendre une douche, se laver les cheveux, se raser les jambes et s'assurer que ses parents allait venir pour garder son bébé. Donc, en fait, des pratiques bien féminines, de souci de soi, de pouvoir produire face à l'équipe qui va la prendre en charge un corps, objet, disons, correct, dans un bon état de propreté et puis d'esthétique. Et puis également le soin à autrui, c'est-à-dire s'assurer que son enfant ne soit pas seul, etc. Mais pendant ce temps où, en fait, elle a repoussé, en fait, l'appel des urgences, eh bien, les cellules de son cerveau continuaient à se détruire. Et de fait, là, on a vraiment un effet, en fait, de retard qui est lié à des pratiques et des visions du monde féminines apprises dans une socialisation de genre et contre laquelle, effectivement, il faudrait arriver à diriger, en fait, la santé publique et les recommandations de santé publique. Femmes, soyez certes un bon témoin de l'AVC de votre mari, mais également un bon témoin du vôtre et n'hésitez pas à privilégier la rapidité d'intervention à d'autres choses qui vous paraissent importantes au moment où vous ressentez que quelque chose ne va pas.
Dans votre enquête, au-delà de l'analyse objective de l'IRM, vous vous intéressez à l'examen clinique. Et là, vous analysez comment sont perçues, interprétées, évaluées, mesurées les pertes des patients. Vous parlez alors de jugement social du cognitif.
Oui, parce que en fait, dans les services, alors on peut avoir l'impression que l'interaction entre les patients et les médecins, c'est quelque chose d'un peu générique. Il y a un instrument de mesure extrêmement standardisé des signes de l'AVC, qui est le NIH, qui est utilisé dans les services, qui est d'une standardisation et d'un caractère générique absolu. Mais de fait, les patients sont des personnes sociales, les médecins sont des personnes sociales, l'hôpital est une institution qui existe dans la société. Et par exemple, quand les médecins doivent évaluer non pas les déficits moteurs des patients, mais les déficits cognitifs, eh ben, ils ont recours à la même chose, le même outil que ce qu'ils utiliseraient dans la vie pour évaluer si les gens vont bien ou pas, c'est-à-dire leur sens social de voilà, quel est par exemple le rapport normal à un médecin, quelle est la façon de se comporter normalement quand on est patient dans une chambre d'hôpital, etc. Donc c'est pareil pour les équipes. Donc en fait, ces jugements sociaux, ils sont d'autant plus présents qu'en fait, il y a une importance très forte qui est donnée aux moteurs, aux capacités motrices à l'arrivée dans les services de neurologie. C'est ça le plus important parce que c'est ça ce qui est davantage prédictif du danger en fait qui guette le patient et puis d'un certain nombre d'autres caractéristiques médicales sur lesquelles je suis pas compétente et je ne m'étends pas. Donc je comprends tout à fait, on peut comprendre tout à fait la primauté aux moteurs. Mais du coup, dans la volonté aussi de juger les pertes éventuellement cognitives, là, du coup, le jugement social va prendre de l'importance parce que, encore une fois, le patient est là comme une personne sociale. Les médecins ou les équipes, en fait, travaillent en recueillant en partie la parole du patient. C'est ça ce qui va leur indiquer, en fait, comment va le patient. On peut pas, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir son cerveau pour savoir comment il va. Il faut aussi le faire parler. Et de fait, en le faisant parler, ben, c'est aussi son monde social qui déboule, pourrait-on dire, et qui va être recueilli, qui va être analysé, mais qui va être aussi jugé. Et un des exemples, en fait, que je travaille plus spécifiquement dans le livre, c'est la question de la désinhibition. Donc là, je rentrerai pas dans le détail, mais en fait, pour juger si les patients sont ou non désinhibés, on va juger, on va utiliser ce qu'on pense être l'attitude normale, par exemple, d'un patient homme par rapport à un médecin femme. Et ce qui va sortir de cette attitude normale va être attribué en fait à la pathologie. Et encore une fois, c'est bien normal. C'est juste que en jugeant ce qui est l'attitude normale d'un patient homme par rapport à un médecin femme, on juge avec ses propres catégories de perception. En l'occurrence, peut-être un médecin femme de classe moyenne ou supérieure qui a une certaine conception des rapports homme-femme et un patient d'origine populaire qui a une autre conception des rapports homme-femme. Donc en fait, le social se glisse en fait, même en fait envahit en partie hein, la relation. Là, j'ai pris l'exemple du genre, mais on pourrait et de la classe, mais ça pourrait être étendu. Mais en tout cas, le social envahit la relation entre le patient et le médecin.
Vous rappelez aussi à plusieurs moments du livre que les professionnels de santé rencontrés ne sont ni indifférents, ni naïfs par rapport à ces inégalités sociales, mais qu'ils sont pris dans un système plus vaste, les institutions, les cultures professionnelles, le monde social.
Oui, effectivement, ça me paraît vraiment important parce que je voudrais surtout pas donner l'impression que la sociologie arrive et quand elle observe les services, qu'elle évalue la qualité des soins ou qu'elle s'amuse à donner des bons points ou des mauvais points. Je n'ai jamais vu que des équipes entièrement investies et parfois dans des conditions très difficiles qui sont celles de l'hôpital public aujourd'hui, mais très investies en fait dans la progression et dans la prise en charge et dans le soin des patients. Il n'y a pas du tout, par rapport aux inégalités sociales, un désintérêt ou même une ignorance. En revanche, effectivement, le type de connaissances que les équipes peuvent avoir en fait de cette dimension sociale, elle est forcément limitée, de la même manière qu'en sociologie, on ne s'y connaît pas en médecine. En fait, il y a un certain nombre de dimensions sociales qui vont leur échapper. Je pense que, souvent, dans les discussions que j'ai eues, à la fois sur mes terrains en fait, d'enquête, ou plus généralement, j'ai toujours été en dialogue avec des professionnels qui ressentent certaines de ces inégalités sociales ou qui ressentent certaines des choses que je décrivais, mais qui n'ont pas forcément les outils pour les prendre en compte, pour les combattre. Donc effectivement, ni naïf, ni indifférent, mais avec, par exemple, des situations de grande précarité vont, là pour le coup, apparaître fortement comme des situations de différence sociale, mais ce qu'on appelle en sociologie ou en épidémio social, le gradient de santé, c'est-à-dire les petites différences de culture de classe des patients sont peut-être moins apparentes. Et de fait, comme je le disais lors de la question précédente, quand un médecin est confronté à un patient, il ne voit pas toujours que parfois des incompréhensions ou des problèmes ou des déficits sont liés davantage à la position sociale du patient et au différentiel de position sociale, notamment entre le patient et le médecin, que à des facteurs plus biologiques ou plus médicaux.
Vos travaux vous ont permis de formuler différentes hypothèses pour expliquer les inégalités sociales dans la récupération. Et un des éléments que vous analysez est que la rééducation s'inspire de la forme scolaire.
Oui, en effet. Alors ça, c'est quelque chose... Là aussi, on parlait de la conscience que les professionnels peuvent avoir d'un certain nombre de dimensions sociales sur leur travail. Cette forme scolaire, en un sens, elle ne leur est pas si étrangère, au sens où, quand je la présente, quand j'en parle, il y a un moment de reconnaissance par les équipes. De fait, quand il y a la grande visite avec le médecin qui fait le tour avec les différents professionnels, par exemple, dans les salles de rééducation, où il y a tous ces professionnels de la rééducation qui sont dans la chambre du patient, chacun énonce à son tour comment le patient a progressé du point de vue de sa propre discipline, de son propre métier. Et puis, ça se termine par le chef de service qui donne une sorte d'appréciation générale exactement sur le modèle des conseils de classe, par exemple. Et au point que, pour les patients eux-mêmes, parfois, ces différentes disciplines de la rééducation leur rappellent des matières scolaires, leur rappellent l'école. En fait, il y a un vrai sens scientifique à regarder comment la rééducation était, alors en sociologie, on dirait prisonnière de la forme scolaire, c'est-à-dire complètement enchâssée, en fait, dans une forme scolaire. Pour un patient, sa semaine ressemble effectivement à une semaine extrêmement scolairement définie, hein, avec des matières à certaines heures de la journée qui reviennent, un emploi du temps, des salles où il faut se rendre pour apprendre des nouvelles choses, où on est par ailleurs évalué, où il y a une note. Les tests sont des tests papier ou des tests sur ordinateur. Et le papier et le crayon, ou encore une fois l'ordinateur, sont présents dans à peu près toutes les spécialités, y compris celles dont on pourrait penser qu'elles sont beaucoup moins intellectuelles et beaucoup plus physiques. Mais par exemple, en kinésithérapie, une bonne position d'un membre ou d'un pied peut être illustrée à l'aide d'un schéma. En éducation physique adaptée, on a une grille d'exercices et un planning d'exercices. Et puis, plus généralement, dans les autres disciplines de la rééducation, l'écrit est à peu près constant et sur un modèle bien particulier qui est celui de l'exercice. En fait, les patients sont entraînés, sont évalués et sont entraînés à partir du modèle de l'exercice. Et l'exercice, c'est quoi? C'est l'abstraction de la vie quotidienne sous une forme extrêmement impersonnelle, encore une fois scripturale. Et un des exemples que je trouve parlant là-dessus, c'est une journée en fait d'évaluation conduite pour une patiente. En fait, il y a un simulateur de conduite dans les plateaux techniques, dans les différents services où j'ai enquêté. Il y a un simulateur de conduite avec un volant, un écran, bref, un habitacle de voiture. Mais cet habitacle de voiture, la patiente va n'y parvenir que tard dans la soirée, en fait, vers 17h, sur une journée qui a commencé à 9h. Et avant ça, elle va faire des exercices visant à évaluer et à la préparer à reprendre la conduite. Et par exemple, un des professionnels, orthophoniste en l'occurrence, me dira le test D2, donc qui est un test où on doit entourer un certain type de signes et pas tous sur une feuille de papier, le test D2, c'est l'attention, c'est la file des voitures sur le périph. Et bien ça, cette conception-là, le fait de penser que faire un test sur papier, ça prépare à la reprise de la conduite ou ça évalue la capacité à reprendre la conduite, eh bien c'est quelque chose qui marche très bien avec certains patients pour qui ça fonctionne et qui va marcher moins bien avec d'autres. Donc avec quel patient est-ce que ça ne va pas marcher? Eh bien avec des patients qui n'ont pas été scolarisés longtemps ou avec des patients de classe populaire. Parce que de fait, ce mode là de rééducation va faire appel à des compétences qui sont des compétences scolaires et va faire appel également à un rapport apaisé à cette situation d'évaluation scripturale, à cette situation d'être devant une feuille avec un crayon, etc. Et du coup, pour ces deux raisons, à la fois la question des compétences et la question du rapport à l'école, des patients qui n'ont pas été scolarisés longtemps ou qui ont développé un rapport parfois même hostile et conflictuel à l'école, et donc tendanciellement les patients de classe populaire, vu que ces deux caractéristiques se trouvent plus souvent chez les patients de classe populaire, ils ne vont pas s'y retrouver, mais ils peuvent aussi développer une forme d'hostilité, c'est-à-dire plus qu'une indifférence, même une hostilité. Et il y a comme ça, j'ai vu énormément de tests qui ne se passaient pas bien avec des patients d'origine populaire parce qu'en fait, ils y retrouvaient leur mise en échec préalable, ils y retrouvaient l'univers de l'école contre lequel, en fait, ils avaient développé une certaine forme d'hostilité. Et un certain nombre des formes d'hostilité en fait que les professionnels attribuent à la pathologie en disant, ben voilà, c'est un patient, soit il est désinhibé ou en fait, il n'est pas motivé par sa rééducation, mais viennent en fait de ce rapport des patients de classe populaire à cette forme scolaire. Mais au-delà de ça, même en termes de culture de classe des patients et puis de la façon dont cette culture de classe rencontre plus ou moins la culture professionnelle, on peut mentionner le fait qu'un certain nombre de ces exercices dont j'ai parlé, un certain nombre de ces tests vont faire référence à un monde qui est celui des classes moyennes et supérieure. Et donc ça, des tests de neuropsychologie où il y a une grande famille qui se réunit pour Noël et où il faut choisir le bon cadeau pour l'oncle Jacques et la tante Berthe, ou sur un test qui vise à vérifier si le patient est capable de voir ce qui est absurde, des phrases en fait qui vont être absurdes pour lui, mais pas pour des raisons cognitives, pour des raisons sociales. Parce que ce sont des phrases qui mentionnent le fait de passer ses vacances au ski, le fait de faire un déjeuner du dimanche avec un rôti de veau ou le fait de savoir comment on écrit l'annonce de fiançailles de sa fille dans le carnet mondain. Donc, toutes ces questions-là, en fait, vont jouer comme écran. Donc, au-delà même de la forme scolaire, scripturale, etc., il y a ce contenu, en fait, des tests qui vont jouer comme écran pour certains patients de classe populaire qui ne connaissent pas, ne vont pas se retrouver dans le monde qui est celui de ces tests et probablement, peut-on dire, des concepteurs de ces tests. Ce qui fait que les patients, avant même de pouvoir arriver aux questions logiques et à la mise en œuvre de leurs capacités cognitives, vont être en quelque sorte arrêtés par cette distance sociale à l'exercice.
En matière d'inégalité homme-femme dans la récupération, vous évoquez notamment le concept de valeur sociale des patients, valeur sociale des pertes et des récupérations.
En effet, ce que j'essaye de montrer sur les classes populaires dans les réponses précédentes, c'est qu'on n'arrive pas à ce qu'ils arrivent aussi bien à être rééduqués par l'institution hospitalière. Dans le cas des différences entre les femmes et les hommes, il me semble que ce n'est pas le même type de mécanisme et que c'est davantage une question de valeur accordée par le triangle rééducatif, comme on l'appelle, donc à la fois les professionnels, le patient et puis même également les proches du patient. Donc c'est davantage une question de valeur accordée aux pertes et aux récupérations des unes et des autres. Il me semble qu'on peut dire la rééducation, elle s'inscrit dans des valeurs qui sont données à certaines pertes. En gros, les patients vont travailler à faire reconnaître certaines pertes comme importantes pour eux. Et ça, les équipes le savent très bien, qui sont à l'écoute de ce qui est important pour le patient, par exemple dans la définition du projet de rééducation. Voilà, il y a un travail pour accorder de la valeur. Les équipes elles-mêmes vont aussi accorder plus ou moins de valeur à certaines pertes ou récupérations, et le genre intervient dans cette mesure des différentes valeurs. Typiquement, il y a des pertes qui ont plus de valeur pour les hommes que pour les femmes. La conduite automobile en est une. C'est-à-dire que là, on peut voir qu'il va y avoir une sorte de consensus, encore une fois, entre tout le monde, c'est-à-dire un consensus entre les équipes, le patient et éventuellement les proches, pour dire que eh bien, ce n'est pas si grave si telle patiente ne peut pas reconduire. Et elle-même, d'ailleurs, trouve que c'est compliqué, c'est difficile de réapprendre et que de toute façon, son mari la conduira. Ce qui, en fait, est accueilli de façon, là encore, assez consensuelle par les équipes lors des interactions que j'ai pu voir sur ces questions. Inversement, les pertes esthétiques, la façon dont l'AVC va toucher le corps, le visage même des patients et des patientes, ces pertes esthétiques, elles sont parfaitement et terriblement égalitaires entre les hommes et les femmes. Quand on est hémiplégique, ça a les mêmes effets sur les visages masculins et féminins, mais pourtant, cela ne va pas avoir la même valeur. Pour les patientes femmes, il va y avoir une construction, là encore, collective, des équipes et de la patiente elle-même, une construction de la forte valeur de ces pertes esthétiques. Et donc une mobilisation de la patiente, de l'équipe, sur cette question esthétique. J'ai en tête une patiente qui demande à ce que dans le projet de rééducation, il y ait le fait qu'elle puisse se remaquiller de façon satisfaisante les deux côtés du visage, alors que hémiplégique et négligente, en fait, voilà, c'est un problème pour elle. Donc voilà, donc une sorte de consensus sur le fait que ces pertes-là sont importantes. Or, pourquoi on pourrait dire, bon ben voilà, en gros, chacun estime l'importance que les pertes ont pour les uns ou les autres et il n'y a pas forcément de problème, sauf que de fait, le monde social étant ce qu'il est, il y a du coup une focalisation sur un certain nombre de pertes féminines qui sont jugées comme importantes, qui en fait vont se traduire par une moindre ambition pour les rééducations féminines. En gros, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout récupérer. Et du coup, quand la patiente elle-même, en fait, insiste plus sur le fait de pouvoir soit se remaquiller ou pouvoir bercer sa petite fille qui est née, ben du coup, l'équipe qui partage l'idée que voilà, ce sont des objectifs de rééducation qui sont aussi importants que le fait que tel cadre puisse retravailler en sortant de l'hôpital, l'équipe va se mobiliser, la patiente va se mobiliser pour ses récupérations. Et du coup, ça peut se traduire à la fois dans les domaines de récupération par une moindre ambition. En gros, il y aura moins de domaines, ils seront moins diversifiés, ils seront moins dirigés vers le monde extérieur, la reprise du travail, etc. Dans le cas des femmes que des hommes, encore une fois, de façon consensuelle entre les patients, patientes et les équipes. Donc, une ambition dans les domaines. Et également, peut-être, et certaines études antérieures à la mienne semblent le montrer, une moindre ambition aussi dans la durée et la définition de la rééducation. Et donc ça, c'est quelque chose en ce qui concerne la durée que moi, j'ai vu beaucoup, c'est-à-dire que le care, la disposition bien féminine à faire passer les autres avant soi-même, qui en partie, comme on l'a vu tout à l'heure, responsable du délai supérieur à l'arrivée aux urgences des femmes. Hein. Donc, ces dispositions au care chez les femmes vont les amener à vouloir rentrer ou à subordonner leur rééducation au fait de pouvoir rentrer chez elles pour s'occuper des autres, pour s'occuper des proches. Alors que, si on regarde le même type de définition, les mêmes types d'ambitions au niveau des hommes, il y a, comme je l'ai dit, plus d'ambition de reprise au travail ou d'ambition tournée vers le monde extérieur et pas seulement le domicile, mais également une sorte de volonté de rester le plus longtemps possible et de récupérer le plus de choses possible. Et donc, dans cette définition-là, j'ai observé vraiment deux groupes hein, de patients, ceux qui veulent sortir le plus vite possible et donc subordonnent en partie la rééducation à leur retour à domicile, et donc les femmes et les hommes de classe populaire, pour le coup, et un autre groupe de patients, beaucoup plus limité, les hommes de classe supérieure, qui, en revanche, cherchent à rester le plus longtemps possible, sachant que, évidemment, la durée de la rééducation, c'est une prérogative médicale, hein, c'est le médecin qui décide, mais de fait, la volonté, la motivation des patients, les discours des patients comptent, et j'ai en tête un patient cadre qui arrive un peu à l'usure, en fait, à obtenir une attention à des problèmes orthophoniques, enfin des problèmes de langage, que l'équipe avait jugé au début vraiment très minime et qui arrive à leur faire reconnaître une grosse valeur de ces petites pertes minimes et à obtenir une prescription longue d'orthophonie à l'intérieur de l'hôpital. Donc là, c'est pour dire effectivement ces questions de valeur, de ce qui va être évalué comme une perte importante ou pas, de ce qui va être inscrit dans le projet de rééducation comme devant être récupéré ou pas, a une importance très forte. Et c'est là-dessus, je pense, que le genre intervient massivement. Hein, c'est-à-dire que les femmes récupèrent moins bien, non pas parce qu'on arrive moins bien à ce qu'elles récupèrent, contrairement à ce qui se passe pour les classes sociales, mais parce qu'on pense collectivement, encore une fois, collectivement, c'est-à-dire la patiente et les équipes, on pense collectivement que certaines choses n'en valent pas la peine, que certaines rééducation en valent moins la peine dans leur cas, et ce faisant, donc on limite l'ambition des rééducations féminines.
Le milieu hospitalier manque de personnel dans certains secteurs. Est-ce que cela impacte les inégalités que nous venons d'évoquer ?
Eh bien, oui. C'est la même réponse, en fait, qu'on donne quand on est sociologue sur est-ce que le nombre d'élèves dans une classe impacte les inégalités sociales devant l'école. La réponse est oui. Il faut plus de bras, il faut plus de cerveau, pour rester dans le thème neurologique d'aujourd'hui, il faut plus de cerveau pour aller contre les pentes naturelles du monde social que pour les laisser jouer. L'exemple que je viens de donner du patient de classe supérieure qui arrive à obtenir un surcroît d'orthophonie, on peut le dire, montre bien que en fait, c'est dans un univers très contraint hein, où il n'y a pas assez d'orthophonistes, de kinés, de médecins, d'infirmières, d'aides-soignantes et que du coup, ces prescriptions sont des biens rares et du coup, il y en a qui vont réussir plus que d'autres à obtenir ces biens rares. Et du coup, pour que en fait, on puisse lutter contre ces ce que nous appelons des phénomènes de domination sociale, pour qu'on puisse lutter contre les pentes naturelles du monde social, il faut qu'il y ait davantage de personnel et que du coup, ces biens deviennent moins rares ou redeviennent moins rares, parce qu'il y a eu des réductions de postes et de ces biens redeviennent moins rares pour que tous les patients puissent en profiter sans avoir forcément les ressources pour les demander ou pour les demander de la bonne manière. Donc là, on est certain, en fait, la sociologie de l'institution hospitalière a montré que les pénuries de places hospitalières, toutes les réductions de coûts à l'hôpital avaient un effet renforçateur des inégalités sociales. Et de ce point de vue-là, je ne montre rien de différent. Voilà, les prises en charge horaires diminuées, les circulations accélérées de patients, tout ça, ça va renforcer les inégalités parce qu'il y en a qui vont réussir ou qui vont aussi avoir les dispositions. Enfin, par exemple, ils vont se couler dans le moule scolaire de la rééducation plus facilement. Donc, ils vont être jugés, ce qui sera vrai, pouvant mieux bénéficier de la rééducation. Mais dans ces cas-là, on voit bien comment, si on est dans des biens rares, si on est dans des temps très contraints, si on est dans une petite enveloppe horaire à distribuer, eh bien forcément, les inégalités sociales seront plus importantes que si on a suffisamment de postes pour, à nouveau, tous ces métiers de la rééducation, donc pas seulement les médecins, mais tous les professionnels de la rééducation. Et peut-être, comme j'ai parlé de la sociologie de l'institution hospitalière et que c'est la dernière question, finir sur le fait que c'est une des sociologies qui peut apporter, je pense, beaucoup, enfin, ou en tout cas, j'espère, beaucoup, qui peut apporter des connaissances au monde médical et au monde hospitalier. Mais ce que j'essaye de montrer, c'est que c'est également le cas de la sociologie des classes populaires et de la sociologie du genre. Et de ce point de vue-là, non pas... je pense qu'il est plus important que pour la prise en charge des AVC, il y ait davantage de médecins, infirmières, soignantes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes que de sociologues. L'idée n'est pas de mettre des sociologues dans les services de rééducation. En revanche, peut-être que pour la formation de tous ces métiers, de toutes ces professions, que les sciences sociales soient davantage présentes, nous permettrait, sciences sociales, d'apporter un peu de ces connaissances que nous avons sur ces questions-là, qui sont encore une fois pas des questions que je présente comme centrales. Je n'ai pas la prétention de dire que ce sont des connaissances qui sont aussi nécessaires que les connaissances médicales ou professionnelles dans la prise en charge, mais enfin, ce sont des connaissances qui sont nécessaires si on veut pouvoir lutter contre les inégalités sociales.
Muriel Darmon est directrice de recherche au CNRS, rattachée au Centre européen de sociologie et de sciences politiques, sous tutelle du CNRS, de l'EHESS et de l'Université Paris 1. Elle est co-responsable de l'ERC Djandi. Entretien proposé par Marion Dupuis, chargée de médiation scientifique au CNRS, rattachée au Centre de recherche sur les arts et le langage, sous tutelle du CNRS et de l'EHESS. Mixage, Simon Garrett. Entretien réalisé en novembre 2022.